Alexandre Dubé.
Les vrais enjeux. Les vraies questions.
Cube Radio. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole. Celle que vous entendez. Alexandre Dubé.
On est le vendredi 5 août. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On tente toujours de comprendre ce qui a bien pu se passer dans cette cavale meurtrière qui aura coûté la vie à 3 personnes à Montréal et à Laval un peu plus tôt cette semaine. On sait que hier matin, les policiers ont abattu le principal suspect, le seul suspect en fait dans cette histoire-là, celui qui est l'auteur présumé de ces 3 meurtres. Ils ont abattu ce gars-là dans un motel du secteur Saint-Laurent à Montréal. Et là, dans le journal ce matin, on a une espèce de portrait de la situation. Parce que hier, je le disais, il y a des questions importantes. Qui est cette personne-là? Et qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui a bien pu le pousser vers cette cavale meurtrière-là? On a des réponses ce matin dans le journal. Je vous résume un peu la situation. D'abord, ce gars-là avait été récemment remis en liberté. Mais ce qui est spécial, c'est qu'il y a un tribunal qui jugeait pourtant qu'il représentait un risque important pour la sécurité du public. Abdullah Chaïk était suivi aussi par la commission d'examen des troubles mentaux et il cumulait depuis 4 ans les séjours à l'hôpital psychiatrique où les médecins essayaient de contrôler sa schizophrénie. Et c'est pas tout. Les spécialistes aussi lui avaient diagnostiqué des traits de personnalité antisociale et narcissique. Il semblait toujours, selon ce qu'affirme le journal, être dans le déni total de sa condition médicale, ne prenait pas sa médication non plus à bien des reprises. Malgré tout ça, la commission d'examen a jugé en mars dernier, c'est à peu près 5 mois avant le drame, que la libération sous condition s'était appropriée dans le cas d'Abdullah Chaïk. Quand on recule encore plus loin en arrière, ses déboires avec la justice, ça date pas d'hier, là. Il est accusé en 2016 d'avoir frappé au visage, d'avoir menacé, agressé sexuellement une ex-conjointe. D'ailleurs, il devait être cité à procès là-dessus en janvier. Faisait l'objet d'une interdiction de posséder des armes depuis ces événements-là. Alors, c'était à se demander comment ça se fait que ce gars-là s'est retrouvé avec un fusil dans les mains pour tuer 3 personnes d'une balle dans la tête. Et moi, quand je regarde le parcours psychiatrique du suspect, j'ai bien des questions. Hospitalisé pour la première fois en juin 2018. 1 mois plus tard, se présente 3 fois en 6 jours à l'aéroport Montréal-Trudeau, est expulsé à chaque fois, brûle son passeport et est accusé de méfaits, mais déclaré non criminellement responsable en novembre de la même année. Là, survient une première audience avec la commission d'examen des troubles mentaux, dans 2019. En avril de la même année, analyse sanguine qui prouve qu'il prend pas ses médicaments et qui nie sa maladie. En juin, la même année, la commission juge qu'il représente un risque de dangerosité, mais la libération conditionnelle est recommandée et obtenue. 1 an plus tard, ce gars-là est réhospitalisé en raison de comportements dangereux. À ce moment-là, il y a une ordonnance de soins qui est obtenue pour traiter l'accusé contre son gré. En mars 2021, nie toujours sa maladie. L'été suivant, hospitalisé encore, se parlait tout seul, se comportait comme s'il était en présence d'un être imaginaire, avait un comportement donc agressif s'il était contrarié. Et ça nous amène en mars 2022, donc 5 mois à peu près avant le carnage. La commission qui a maintenu sa libération conditionnelle. Ça, c'était sa 5e audience devant donc la commission. Pour nous aider à comprendre, Gilles Chamberlain est psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. Bonjour, Monsieur Chamberlain. Merci d'être avec nous. C'est apprécié.
Bonjour. Ça me fait bien plaisir.
Bon, j'ai fait une longue ligne du temps de ce qui s'est passé, mais c'était pour bien comprendre la situation. Maintenant, je me tourne vers vous, vers l'expert. Quelle est votre lecture des événements?
Écoutez, ma lecture des événements, c'est, il y a 2 conceptions là, qui s'affrontent. La première conception est un peu philosophique et c'est celle tenue par la Cour suprême qui dit que la commission d'examen, la balise qu'ils ont donnée, c'est si quelqu'un ne présente pas un danger sérieux pour la société, il doit être libéré inconditionnellement. Et ça, quand on lit ça, on ne peut pas être contre la vertu, on est tout pour ça. Si quelqu'un présente pas un danger sérieux, on va le libérer. Le problème, c'est que ça fonctionne pas comme ça. Les patients, puis encore là, on ne veut pas stigmatiser ceux qui souffrent de schizophrénie, mais tous ceux qui sont susceptibles d'avoir une psychose, lorsqu'ils sont traités comme il faut, sont pas plus dangereux que la population en général, sont même plus vulnérables que la population en général. Mais lorsqu'ils sont en psychose, sont en perte de contact avec la réalité, toutes les études montrent qu'ils peuvent être beaucoup plus dangereux que la population en général. Puis les psychiatres vont dire le contraire, là, il faut qu'ils aillent relire leur théorie.
Ouais.
La psychose, souvent, c'est un délire, le plus fréquent, c'est un délire paranoïde. Les gens vont penser qu'ils sont menacés de quelque chose. Ils deviennent imprévisibles et on peut pas vraiment savoir ce qu'ils pensent non plus. Donc, médicalement, souvent, on va recommander que ces gens-là soient soumis à plus de conditions que simplement les libérer inconditionnellement ou sous certaines conditions quand on pense qu'ils sont encore dangereux. Moi, j'avais 5 cas de commission d'examen cette semaine et il y en a 2 qui ont été libérés inconditionnellement sous contre avis médical. Il y en a qui ont clairement dit, écoutez, moi, je ne prendrai pas ma médication si je suis libéré. Moi, je mets témoigné à l'effet que si pendant sa médication, 100% des chances de rechuter, 100% des chances de revenir dangereux, il était libéré inconditionnellement.
Ben voyons donc.
Avec, sur la base que là, il ne présentait pas un danger sérieux.
Ben oui, mais c'est... honnêtement, je tombe de ma chaise, M. Chamberlain, en entendant comme ça. Coudonc, est-ce qu'on distribue les largesses au niveau de la commission d'examen?
Ben, parce qu'ils n'ont pas le choix, comme je vous dis, là, ils ont des balises eux aussi. À partir du moment où la Cour suprême dit que quelqu'un doit être libéré inconditionnellement, ça veut dire que, puis c'est pour ça que moi je suis un peu contre ça, là, il y a une logique aussi médicale. Là. Puis quelqu'un a été dangereux quand il est devenu malade, n'importe quel citoyen qui serait conscient de ça s'arrangerait pour ne pas redevenir malade. Les conditions de prendre sa médication, de ne pas consommer de drogue, puis de suivre le traitement, puis d'habiter dans un endroit connu et approuvé, c'est un minimum que n'importe quel citoyen ferait pour se protéger lui-même et protéger la société.
Ouais.
D'exiger ça de quelqu'un, pour moi, c'est pas des conditions si exagérées que ça. Mais ces conditions-là ne seront même pas imposées à un patient si on considère qu'il ne présente pas un danger sérieux pour la société.
Est-ce que c'est à revoir, ça, les critères au niveau de la libération pour la commission d'examen des troubles mentaux?
Mais moi, je pense que, j'ai quelques exemples, c'est mon opinion personnelle, mais je pense que on n'aide pas les patients en faisant ça. Là. On pense qu'on leur donne une liberté, mais en fait, ces patients-là souffrent aussi. Dans le cas qui nous préoccupe, si c'est vraiment cet individu-là qui a fait ça, ben il est décédé et sa famille est catastrophée. Mon patient, ça a pris 5 ans avant qu'on réussisse à le placer dans une ressource que ça aille bien, mais c'est sûr que c'est une question de temps avant qu'on commence tout à zéro. Donc, ceux qui maintiennent qu'on doit priver la liberté à tout prix, tiennent pas compte aussi d'un certain... On n'est pas contre nos patients quand on est en psychiatrie puis qu'on insiste pour que certains continuent leur médication. Donc, c'est pas être nécessairement contre les patients que de dire qu'on devrait quand même leur imposer certaines choses quand ils réalisent pas qu'ils sont malades.
Ah, puis vous le soulignez à juste titre, M. Chamberlain, puis je le dis aussi, là, moi, l'objectif, là, c'est pas de stigmatiser personne. Mais en même temps, il y a 3 personnes qui sont mortes d'une balle dans la tête en pleine rue à Montréal puis à Laval. On est en droit de se poser quand même des questions. Dans le cas d'Abdullah Chaïk, il me semble qu'il y avait plusieurs drapeaux rouges, que ce soit sur le plan judiciaire, mais sur le plan aussi de problèmes de santé mentale.
Absolument, absolument. Et le problème, c'est que les gens qui souffrent de ce type de maladie-là, quand ils recommencent à devenir malades, ils ont tendance à s'isoler. On a tendance à moins les voir, ils ne parlent pas. Et là, ça devient de plus en plus difficile, ils deviennent méfiants face à tout le monde, de savoir qu'est-ce qu'ils pensent, jusqu'où ils sont rendus dans leurs idées délirantes. Fait que de bien évaluer la dangerosité, ça devient extrêmement difficile.
Quand on regarde aussi le modus operandi, de la façon que ça s'est déroulé, là, des meurtres, tous des hommes qui ont été abattus, tous en pleine rue, tous d'une balle dans la tête. Est-ce que je comprends qu'on n'a pas énormément de détails là, sur l'état de santé mentale de l'auteur au moment où ça s'est fait? Mais est-ce qu'il y a des indices qui vous allument une lumière en disant ah, c'est peut-être justement une psychose ou un délire, une folie meurtrière?
Absolument. Plus le crime est absurde, plus il y a des indices de maladie. Ça existe des gens qui vont faire des meurtres en série ou des qui vont tuer des personnes d'un coup, des meurtres de masse. Ça existe, mais ces gens-là ont habituellement une bonne raison. Soit c'est une cause qu'ils veulent défendre, soit que c'est justement là, des fanatiques de quelque chose. Le vrai tueur en série va prendre plaisir à tuer. il va identifier un genre de victime. Oui. Une fois que ce plaisir-là est assouvi, ça va remonter, mais ça va être pas mal plus loin. Fait que donc, tuer, c'est pas banal. Ça nous met à risque, comme tueur, de se retrouver dans la justice, d'avoir des problèmes. Et plus c'est fait de façon absurde, prendre ce risque-là, plus on se rapproche de la maladie. Et dans ce cas-ci, on a tous les indices pour croire que c'est de la maladie. Si c'est la même personne qui a effectivement tué ces trois pauvres victimes-là, ben c'est des crimes totalement absurdes. C'est des victimes qui ne se connaissaient pas, qui n'ont rien en commun, qui avaient l'air d'avoir rien à se reprocher. On se rapproche de la maladie, là.
Oui. Autre question que je me posais, c'est comment ça se fait que ce gars-là avait un gun?
Ben ça, c'est une autre affaire. On peut bien mettre les conditions qu'on veut. Les hôpitaux sont là pour soigner des gens. Les hôpitaux sont pas là pour jouer aux agents de probation, puis on n'est pas là pour ça. Fait, même si on fait un suivi serré là, aux deux semaines, qui est quand même serré pour une clinique externe, ce que le patient va faire à travers ces deux semaines-là, on ne le saura pas. Le mieux, c'est quand il y a des ressources disponibles, où là, les patients ont des couvre-feux, qu'on peut les suivre un peu plus, mais même là, il n'y a pas de garantie non plus. Fait qu'on peut pas demander au système médical d'assurer ce genre de suivi-là à la perfection, c'est impossible.
Ouais. Est-ce qu'on n'est pas face aussi peut-être un peu à l'échec des choix de société qu'on a fait aussi au niveau de la désinstitutionnalisation notamment. Ne serait-ce, je veux dire, moi je marche à tous les jours là, sur la rue Sainte-Catherine en direction de Berry-UQAM. Et des personnes qui ont besoin d'aide, qui sont soit en situation d'itinérance, qui ont besoin d'aide, qui sont visiblement aux prises avec des problèmes de santé mentale, j'en vois tous les jours, plusieurs, des gens qui ont besoin d'aide et visiblement qui n'ont pas d'encadrement. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi, peut-être, parfois, qui fait en sorte que, ben, il y a des gens qui passent entre les mailles du filet avec des conséquences aussi dramatiques qu'on a vues cette semaine à Montréal puis à Laval?
Effectivement, la désinstitutionnalisation, au départ, c'est une très, très bonne idée. Et la première vague de patients à qui on a donné congé, c'est souvent des patients relativement autonomes qui pouvaient très bien fonctionner en société. Et là, on a continué à sortir des patients, mais c'est les patients qui suivent, c'est des patients qui nécessitent un encadrement, qui nécessitent des soins. Et à un moment donné, c'est devenu comme une façon d'économiser des sous, parce que ça coûte cher d'être à l'hôpital. Mais quand on est rendu qu'on sort des patients qui ont besoin de structures, qui ont autant besoin d'un environnement contrôlé qu'à l'hôpital, on peut pas s'attendre à les sortir et à ce que ça coûte rien. Si on les sort, faut mettre l'infrastructure qui va aller autour. Et la deuxième des choses, c'est que là, on parlait de la commission d'examen, c'est des patients qui ont déjà été reconnus coupables, qui ont déjà fait des crimes. Mais un citoyen qui a pas fait de crime, avant de pouvoir l'évaluer, là, il faut qu'il présente un danger grave et immédiat. Et le grave et immédiat, c'est quand même toute une barre à rencontrer. Donc, il y a plein de gens qui sont clairement malades, qui sont clairement dans le besoin, qui sont pas capables d'eux-mêmes de demander des soins et qui le demanderont jamais. On attend qu'ils soient dangereux. Fait qu'une fois de temps en temps, le danger qu'ils vont présenter, c'est quelque chose de grave. Et c'est dommage que la règle, ce soit pas, si la personne est souffrante, pourrait être aidée et est incapable de le faire d'elle-même, on pourrait-tu au moins l'évaluer? Mais c'est pas ça la règle.
Ouais. Je me mets, puis c'est difficile, là, je peux même pas imaginer la souffrance des proches de ces trois victimes-là, là, mais j'essaie de me mettre un peu dans leurs souliers cinq minutes, là. Puis je regarde, mettons, le système, la façon que c'est fait, les critères au niveau de la commission d'examen des troubles mentaux. Puis moi, la réflexion que j'ai, si je me dis, coudonc, il en faut combien des chances, puis il en faut combien, là, des drapeaux avant d'intervenir. De l'extérieur, M. Chamberlain, là, ça me semble aberrant.
De l'intérieur, je peux vous avouer que ça semble aberrant aussi.
Ah oui, hein?
Bon. Parce que, en fait, c'est pas trois morts qu'il y a. C'est vraiment cette personne-là qui a été malade, c'est quatre morts. Parce que
oui,
la personne qui était malade, je sais pas si c'est ses soins, quand elle aurait pu les avoir, ben elle non plus, elle n'a pas choisi.
Exactement, il a été abattu, tout à fait. Oui, ouais. Oui, vous le soulignez. D'ailleurs, ses proches, hein, vous avez peut-être entendu un extrait notamment de certains commentaires de ses proches, de son frère, qui lui doute vraiment là qu'il est bel et bien responsable de ça. Il le décrivait de façon très, très, très différente que ce que les faits semblent démontrer, là, que ce que son dossier semble démontrer, que ce soit judiciaire ou psychologique. Hein. Est-ce qu'on voit ça souvent des fois? Les proches qui se disent, ben voyons, ça se peut pas, c'est impossible, ils ne se comportent pas comme ça, alors que sa feuille de route démontre le contraire?
Oui, mais c'est pas pour rien que les proches sont comme peuvent voir ça, parce que si c'est une maladie, c'est quelque chose qui s'empare de quelqu'un au début de la vingtaine, là, des fois 19, mais surtout au début de la vingtaine, et là qui accélère. Fait que souvent, c'est des personnes qui peuvent être sans problème, qui avaient un bel avenir, qui étaient vraiment qui avaient tout pour eux. Je sais pas pour cet individu-là, mais souvent on le voit, des individus de bonne famille qui ont un avenir devant eux, qui peuvent des fois même avoir fondé une famille, avoir un travail, et là ils vont glisser. Ils vont se refermer, ils vont perdre leur travail, ils vont perdre leur famille, ils vont se retrouver isolés, on n'est plus capable de les approcher. Et là, on les reconnaît plus. Les proches vont dire, je ne le reconnais pas, c'est pas lui. Fait qu'on n'est pas surpris que les proches qui ont connu des gens avant qu'ils soient malades, qui après ça, ils les ont perdu de vue parce qu'ils se sont isolés, disent, c'est pas possible. Mais c'est ça le propre de cette maladie-là.
Ouais. Expliquez-nous à quel point... schizophrénie et problème de drogue peut être une combinaison épouvantable.
C'est épouvantable. C'est épouvantable parce que les symptômes que les schizophrènes peuvent présenter quand ils sont en psychose peuvent être déclenchés par la prise de drogue. Et même si on donne la médication appropriée, ça ne sera pas suffisant si un individu est particulièrement fragile. Et le problème, c'est que les schizophrènes vont être méfiants face au système, face à tout ça, vont tenter de s'auto-traiter eux-mêmes avec ce qui est disponible. Et malheureusement, on a souvent une double problématique de patients qui sont souffrant d'une psychose comme les schizophrènes et qui, par-dessus le marché, vont essayer de se traiter avec des drogues en prenant parce qu'ils s'évadent un peu aussi de leur souffrance quand ils prennent ça. Et là, le problème devient en double.
Ouais. Monsieur Chamberlain, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. C'est vraiment apprécié. C'est un événement tragique qui a vraiment secoué tout le monde. Puis l'objectif, encore une fois, je le répète, c'est pas de stigmatiser personne. C'est de mieux comprendre, de mieux accompagner les gens pour que des drames comme ça ne surviennent plus. Merci beaucoup, docteur.
C'est un plaisir. Au revoir.